Oui, il y a un moment où, en quelque sorte, le monde éclate. Hein, on pourrait dire les choses comme ça. Tout à l'heure, on a parlé de l'ouverture du monde, ce qui est une formule tout à fait juste, mais on peut dire aussi qu'il y a un éclatement et les grandes découvertes vont menacer, en quelque sorte, la cohésion de l'image du monde qu'on avait. Aujourd'hui, autrefois, on avait trois continents qui correspondaient aux trois fils de Noé, et ces trois continents étaient soudés les uns aux autres. L'Europe, l'Asie et l'Afrique réunis autour de la Méditerrané centrale. Comme son nom l'indique, la Méditerranée est au milieu des terres, est au milieu de la terre même.
Et autour de Jérusalem, qui était aussi le cœur du monde.
Et justement, Jérusalem est le pivot entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. C'est le point médian. Et quand on plaque la croix du Christ sur le globe, l'intersection de la verticale et de l'horizontale, c'est Jérusalem. Et alors, tout d'un coup, on a donc ces îles. Alors, ces îles, on savait que dans la cosmographie traditionnelle, on imaginait ce monde solidaire, ce monde global, ce monde de trois continents, on l'imaginait entouré par une guirlande d'îles qu'on représentait toutes les couleurs dans les atlas médiévaux. Mais tout d'un coup, ces îles se multiplient et puis se reforment en continent. Et là, on ne comprend plus très bien. Et Raymond évoquait tout à l'heure le problème des fils de Noé. Il y a une grande question qui se pose. Quand on va découvrir que l'Amérique est un continent, on va se demander auquel des fils de Noé rattacher cette nouvelle population.
Eh oui.
Noé n'a que trois fils et il y a quatre continents. Comment faire? Alors, on va lancer toutes sortes d'hypothèses, des hypothèses migratoires.
Parce que, en fait, vous expliquez bien, Franck Lestingrand, dans vos textes, que la géographie de l'époque est une géographie morale et théologique. Donc, il faut absolument faire coller la théologie avec la géographie. Et donc, à partir du moment où cette géographie que l'on découvre ne correspondait plus à cette géographie théologique qu'on avait donc forgée tout au long du Moyen-Âge, eh bien, on ne sait plus quoi faire.
Alors, on bricole. Alors, on imagine que soit des Africains, soit des Asiatiques, soit des Européens ont traversé les mers bien avant. C'est l'hypothèse que va développer plus tard le poète Guillaume de Salluste du Bartas, dans La semaine où création du monde, qui est un très grand poème sur la création du monde. Et il imagine donc des migrations qui permettent de respecter le texte biblique et l'unité du genre humain, c'est aussi la grande question. Est-ce qu'il y a une humanité ou plusieurs? Donc ça permet de réconcilier le dogme biblique, le dogme chrétien, et puis la nouvelle réalité géographique.
Anaïs Quien.
D'ailleurs, Raymond Létanien, on ne parle pas de cartographe, mais de cosmographe à cette époque-là.
Oui, et pour rebondir sur ce que disait Franck à l'instant, parmi les légendes ou les constructions de voyages qui vont apparaître, on va parler de la 10e tribu d'Israël qui aurait traversé l'Atlantique. Il y a aussi, plus tardivement, une hypothèse sur le fait que les Phéniciens auraient pu aborder aussi dans la région du nord des États-Unis.
D'ailleurs, quand on regarde les cartes de ce livre que vous avez publié, La mesure d'un continent, ces cartes sont très peuplées. Il y a beaucoup d'humains sur ces représentations cartographiques.
Oui, il y a des humains et il y a des traces de vie humaine avec de l'agriculture, des animaux à chasser que les Européens appréciaient. Alors encore, parmi ces voyages mythiques, il y a eu les frères Zeno qui auraient laissé, semble-t-il, un récit apocryphe. Il y a les Saint Brandan et les Islandais. Il y a aussi plus près de 1510 le Normand Jean Cousin. Qui sera allé aussi, dont on n'a pas de preuve écrite. Et aussi les Chinois, la Chine, qui aurait découvert l'Amérique au début du 15e siècle, vers 1421. Il y a de gros ouvrages qui sont parus sur le sujet récemment. Et puis, ce qui était sûr, toutefois, c'est qu'on avait connaissance de la présence des Vikings. Des Vikings qui seraient partis de Scandinavie vers le Groenland, vers l'Islande et le Labrador et Terre-Neuve autour de l'an 800 environ et qu'ils y seraient restés 2 à 3 siècles sur place.
Quelle connaissance on a de ces découvertes vikings en 1510
Apparemment, les navigateurs européens ne s'en servent pas, ne les ignorent.
C'est-à-dire qu'on aurait oublié d'une certaine façon des découvertes antérieures parce qu'il n'y aurait pas eu transmission, il n'y aurait pas eu connaissance. Et puis, il y a aussi quelque chose que vous expliquez bien, Raymond Létanien, c'est que, par exemple, les pêcheurs qui... parfois peuvent trouver des nouveaux territoires de pêche, et tout près de Labrador ou de Terre-Neuve en particulier, n'ont aucun intérêt à révéler à quiconque qu'ils ont trouvé un nouveau territoire de pêche. Donc, d'une certaine façon, ils gardent le secret entre eux pour pouvoir continuer à bénéficier de ces découvertes-là sans que des concurrents puissent s'installer sur le même territoire.
Oui, et la pêche se faisait sans carte.
Oui.
les pêcheurs n'avaient pas besoin de cartes. On sait très bien que, bien qu'on n'ait pas beaucoup de traces écrites, on sait très bien que les pêcheurs allaient aussi loin qu'ils pouvaient pour recueillir de leurs poissons, mais ils ne laissaient pas de traces, et surtout, il ne fallait pas en laisser.
C'est un savoir-faire, donc il n'y a pas de traces écrites de ces expéditions.
Avant le XVIe siècle, il n'y en a pas.
Il y a une sorte de divorce entre culture savante et culture populaire, ou culture écrite et culture orale, qui va durer assez tard. Et la géographie du XVIe siècle, justement, va essayer de rassembler les deux, de rassembler cette géographie antique héritée de Ptolémée que vous avez rappelé, et d'autre part, cette expérience pratique des marins, des pêcheurs, des forbans aussi. Et ça va donner la géographie moderne,
Et c'est pour ça que, donc, année après année, on voit croître et embellir ce métier de cartographe aussi, parce que c'est vrai que toutes les cours d'Europe se dotent progressivement de ces cartographes. Alors la cour des Portugais, bien entendu, depuis plus longtemps, parce qu'ils sont peut-être les premiers à être partis au loin. La cour, évidemment, de Castille ensuite. La cour de France, parce qu'évidemment, on fera comprendre, ou alors des grands bourgeois, que ce soit à Dieppe ou ailleurs, on fera comprendre qu'il y a intérêt à avoir des cartographes auprès de soi.
Il faudrait revenir au terme de cosmographe qu'il faut expliquer. La cosmographie, c'est un concept qui vient de Ptolémée, enfin qui vient des Grecs, et la cosmographie, c'est la description du monde d'après les cercles du ciel, étant donné que la Terre est imaginée centrale, au centre du cosmos. Donc on projette sur la Terre les cercles du ciel, c'est-à-dire les écliptiques, méridiens, parallèles, etc. Et à partir de cette construction globale, on va essayer de la remplir. On a donc ce modèle géométrique qui vient des anciens, et on essaie de remplir à partir de l'expérience pratique des navigateurs, ce qui pose beaucoup de problèmes à cause notamment de la question de la mesure du monde.
Ce qui veut dire, Raymond Litalien, que les cosmographes sont, disons, très recherchés par les chasseurs de têtes de l'époque, on peut dire, parce que j'imagine qu'avoir un bon cosmographe auprès de soi, ça peut être très utile pour pouvoir développer ses propres territoires, développer ses propres conquêtes, trouver de nouveaux territoires et donc de nouvelles richesses, Raymond Litalien.
Oui, et ce qui fait basculer la connaissance du monde par la carte à cette époque, c'est que les cours d'Europe commencent à s'intéresser à la cartographie pour augmenter leur prestige, bien sûr. Et les cours d'Europe ont besoin, en cette fin du 15e siècle, ont besoin de numéraires. Les échanges se multiplient, les relations diplomatiques aussi, l'information passe. C'est comme ça que les cours d'Europe sont au courant des découvertes cartographiques qui ont pu être établies dans
l'AIA.
Il y a des espions, et ça, on le voit très bien, en particulier après l'expédition de Giovanni Caboto, envoyé par Élisabeth d'Angleterre.
La couronne britannique.
La couronne britannique en 1497. À son retour, les diplomates, les diplomates rattachés à la cour de Charles Quint ou à la cour d'Angleterre, font passer l'information partout que Giovanni Caboto aurait abordé en Chine, mais qu'il n'a pas encore rencontré le grand camp, mais qu'il a trouvé des ressources poissonneuses considérables. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a révélation écrite du voyage, que on est au courant de d'autres voyages, et il semble que les marins se ruent vers Terre-Neuve pour aller chercher cette manne qui est le poisson.
Franck Lestin. Je voudrais juste ajouter aussi que les cosmographes sont des gens corruptibles et qui se vendent aux plus offrants.
C'est pour ça que je parlais de chasseurs de têtes.
Voilà. Et je voudrais juste citer l'exemple de Pedro et Georges Reynel qui, en 1519, donc, passe de Lisbonne à Séville, donc qui passe du service du roi de Portugal au service du roi d'Espagne. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Non seulement ils changent de maître, mais ils modifient leur carte. Les Moluques, vous savez, c'est vraiment le territoire qu'on recherche à cause des épices. C'est vraiment le rêve de tous les navigateurs, de tous les empires, de s'accaparer les Moluques. Or, la ligne de partage du monde définie lors du traité de Tordesillas passe au milieu des Moluques.
Il faut raconter ça quand même, parce que tout le monde ne sait pas la ligne de partage du monde décidée donc au traité de Tordesillas en 1494, je crois, c'est ça.
Très tôt.
Deux ans après Colomb. Colomb, donc la découverte du premier voyage de Colomb. Donc, eh bien, le pape décide donc, après de longues négociations, de savoir où s'arrêtera l'influence espagnole et où commencera l'influence portugaise sur le monde. Donc, dans une sorte de partage du monde, effectivement.
Et on partage le monde selon un grand cercle, selon un méridien.
Donc, mais donc, si on pousse un petit peu à gauche ou un petit peu à droite un territoire, coup, il change de sphère.
Voilà, les volumes passent à gauche ou à droite, passent du Portugal à l'Espagne, c'est considérable, c'est-à-dire une richesse considérable.
Et c'est comme ça que le Portugal réussit à récupérer le Brésil, parce qu'en fait, on décide qu'au milieu de l'Atlantique, à partir de tant de lieux, à partir des Açores, je crois, Raymond l'Italien, eh bien, ça sera encore sous influence portugaise, et qu'au-delà, ça sera sous influence espagnole, et c'est comme ça qu'au bout du compte, la pointe donc est du Brésil entre dans la sphère portugaise, alors que tout le reste de l'Amérique latine donc entrera sous l'influence espagnole.
340 lieues à l'ouest des Açores. Ce qui est au-delà de 340 lieues à l'ouest des Açores appartiendra à l'Espagne. Et c'est intéressant, si on peut se permettre d'extrapoler un peu plus tard, l'Espagne va continuer de s'attribuer le territoire qui sera au-delà de ces 340 lieues à l'ouest des Açores, et ce jusqu'au 18e siècle, au moment où des explorations anglaises, françaises iront sur la côte du Pacifique. L'Espagne va réclamer encore cet espace comme étant son héritage. De son héritage papal.
Datant de 1494, donc juste après le voyage de Christophe Colomb.
Mais à cette date de 1494, il me semble que c'est à ce moment-là que bascule l'appropriation de la planète qui auparavant appartenait entièrement à Dieu. Mmh. Et à ce moment-là, elle est revendiquée par le pouvoir civil.
Oui, il faut peut-être en revenir au terme de cosmographe. Le cosmographe, on l'a dit, c'est un géographe universel. Et dans l'idée de cosmographie, il y a l'idée d'empire. On recherche les cosmographes, bien sûr, parce que c'est un titre de gloire, mais c'est aussi faire la carte du monde, c'est une manière de le conquérir et de se l'approprier. Et je crois que ce rêve d'un empire global, le fameux empire de Charles Quint sur lequel le soleil ne se couche jamais, c'est vraiment une ambition qui est partagée par le Portugal, l'Espagne, plus tard par l'Angleterre et naturellement par la France.
Avec une dimension mystique qu'il ne faut pas oublier, enfin en tout cas si elle n'est pas mystique, en tout cas religieuse qu'il ne faut pas
oublier, bien sûr,
de la part du roi Manuel Ier du Portugal ou de bien d'autres.
Bien sûr, le roi de cet empire est un roi élu, un roi béni par Dieu, bien sûr, pour réunir l'humanité dans la même chrétienté.